Firouzena Bandi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Judaïka. Vous êtes sociologue, professeur honoraire à l'Université libre de Bruxelles et spécialiste de l'Iran. Vous avez également publié un livre qui en est à sa troisième édition et qui s'intitule Iran. Il est aux éditions Debouc et un deuxième livre qui s'intitule Être femme en Iran et sa deuxième édition sortira au mois de mai 2023. Et aujourd'hui, à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, nous allons, si vous le voulez bien, parler des femmes en Iran. Avec premièrement des faits, hein. On est en septembre 2022 lorsque la jeune Mahsa Amini se fait arrêter par la police des mœurs en Iran à cause d'une mèche de cheveux qui dépassait de son voile. Elle décède suite à son arrestation et s'en sont suivies depuis d'importantes manifestations pour la plupart pacifistes en Iran. Certains experts parlent même de réelles révoltes contre le régime des ayatollahs. Mais si on devait parler des femmes iraniennes en particulier, est-ce qu'on pourrait dire qu'elles sont en train de mener leur première révolte féministe?
Ce qui est intéressant dans les événements actuels, c'est qu'ils ont une ampleur tout d'abord plus grande que les autres manifestations, que les slogans visent directement le régime et la chute du guide suprême Ali Khamenei. Néanmoins, on ne peut pas dire que c'est la première vraie révolte féministe des Iraniennes, dans la mesure où les mouvements féministes ont débuté à la fin du 19e siècle déjà, en même temps que d'autres mouvements un petit peu partout dans le monde. Que les femmes, depuis 1979, pour sauter quelques étapes, mais depuis 1979, ont régulièrement essayé de contourner tous les interdits et les lourdeurs et administratives et tout ce qui leur était imposé dans ce régime patriarcal et islamiste. Donc, ce n'est pas qu'elles ont été inactives, mais effectivement, ces manifestations actuelles ont une autre dimension.
Alors, la République islamique d'Iran, c'est un pays où les droits en général, mais également donc les droits des femmes sont bafoués. C'est également le cas dans d'autres pays, hein, tels que l'Afghanistan, pour n'en citer qu'un seul. C'est difficile de prédire un changement de régime en Iran, mais serait-il possible que certaines choses changent malgré tout concernant les droits des femmes?
Vous avez tout à fait raison de souligner que les droits des femmes sont bafoués, mais j'irai encore plus loin. Il y a en Iran ce que j'appelle une institutionnalisation des inégalités, à savoir que dès la Constitution, on voit la différence entre les hommes et les femmes inscrites. En plus, le code civil et le code pénal font la différence entre les hommes et les femmes, évidemment au détriment des femmes. Et donc, que les choses puissent changer, il serait difficile pour le moment de le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un mouvement qui s'est enclenché. Il y a un changement qualitatif et quantitatif des manifestations vis-à-vis de ce régime qui est, avec certitude, je l'affirme, délégitimé. Maintenant, il a probablement pas montré sa vraie capacité de répression, même si effectivement il y a eu plus de 20 000 arrestations, 500 morts, des exécutions. Néanmoins, il y a quand même une capacité encore de répression de la population qui existe, mais je crois que à long terme, ce régime est destiné à tomber. On ne peut ni dire quand, bien évidemment, et ni sous quelle forme.
Alors, lorsque vous dites qu'il y a des différences hommes-femmes dans le code civil et dans le code pénal en Iran, pouvez-vous nous donner quelques exemples?
Oui, tout à fait. Il y a des éléments qui sont assez semblables, disons, à d'autres pays musulmans. Le code civil, d'ailleurs, n'a pas été tellement modifié après la révolution islamique, mais en ce qui concerne, par exemple, l'héritage, les femmes héritent deux fois moins que les hommes, en ce qui concerne les divorces, l'homme peut divorcer comme il veut, alors que les femmes doivent montrer des preuves qui étayeraient leur demande de divorce. Il y a également toutes les autorisations qui sont demandées, qui doivent être demandées au mari pour que la femme puisse travailler, puisse voyager, puisse en fait se mouvoir en toute liberté. Et donc ça, ce sont vraiment les grands domaines où on voit la différence entre les uns et les autres. Et un domaine qui m'est particulièrement, disons, cher dans la mesure où il illustre vraiment l'inégalité, c'est la question de la dot, qui est donc une somme versée par le mari à la femme lors de son, avant, oui, le mariage, et qui est discutée entre les familles et qui, de manière intéressante, donne le droit à la femme de ne pas accepter une relation sexuelle, donc la consommation du mariage, si la dot n'est pas versée, ce qui peut être interprété, selon moi, comme une manière par l'homme de d'acheter la reproduction, la capacité de reproduction et la sexualité de sa femme, puisque elle peut refuser si elle n'a pas reçu l'argent.
Alors la mort de Mahsa Amini, on imagine que ce n'est pas un cas isolé en République islamique d'Iran. Néanmoins, est-ce que selon vous, c'est le cas Mahsa Amini qui a ouvert encore plus les yeux de la communauté internationale sur le non-respect des droits de l'homme et des droits des femmes en Iran?
Je pense que vraiment la mort de Mahsa Amini, cette femme jeune, innocente, qui était venue en visite à Téhéran, a été un moment déclencheur, non seulement des révoltes et des manifestations en Iran, mais également un moment qui, effectivement, a montré à la communauté internationale l'ampleur des problèmes qui sont ceux des Iraniens, parce qu'effectivement, la question du voile est mal portée, c'est le sommet de l'iceberg pour les inégalités subies par les femmes, mais dans le même temps, depuis de nombreuses années, les Iraniens subissent, hommes et femmes, de nombreuses restrictions, vivent dans des conditions économiques totalement déplorables dans la mesure où un pays qui est producteur de gaz et de pétrole a une population dont près de 50% vit en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. De plus, le cas de Mahsa Amini arrêté et probablement d'une manière, certaine manière torturée ou en tout cas très fortement malmenée, ce n'est pas un cas isolé. Dans les prisons iraniennes, ceci est très courant. Par exemple, les femmes actuellement dans les prisons, et cela a été également étayé par différentes personnes qui en ont parlé, les femmes sont maltraitées, sont violées, les femmes à l'extérieur sont continuellement sous surveillance, et il y a une police des mœurs qui guette tout comportement qui ne serait pas islamiquement correct, si vous voulez.
Alors une question peut-être un petit peu utopique hein, à l'heure actuelle, mais que peuvent faire les pays où les droits des femmes sont plus respectés, comme la Belgique par exemple, et où les inégalités sont moins présentes, pour aider justement les femmes iraniennes en Iran à se faire entendre?
Je pense que l'un des premiers éléments d'aide des pays où les droits des femmes sont plus ou moins respectés, c'est de ne pas oublier les femmes. C'est vraiment tout à fait important enfin, de ne pas oublier les femmes dans les pays où elles subissent ce type de maltraitance, comme en Iran, comme en Afghanistan. Malheureusement, ce qui se passe, et c'est le lot de notre vie quotidienne, c'est qu'il y a des nouvelles qui font la une des médias pendant tout un temps, et puis il y a d'autres actualités qui viennent et qui poussent ces événements importants en deuxième position. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour les femmes afghanes. Et ce que je crains, c'est que cela n'arrive aussi aux femmes iraniennes, même si effectivement la diaspora est là, et c'est un élément important des événements actuels pour rappeler continuellement aux institutions étrangères qu'il y a quelque chose qui se passe en Iran et qu'il ne faut pas l'oublier. Donc il y a le soutien continu. Il y a le fait quand même d'essayer de ne pas avoir ni deux poids, deux mesures et de ne pas aller à l'encontre de ses propres valeurs pour des raisons économiques, parce que c'est souvent le cas. On oublie le sort des populations et des femmes en particulier pour des raisons d'État et des raisons économiques. Donc, essayer de faire fi de cette hypocrisie, mais cela étant, faire continuellement pression sur des pays qui ont signé, parce qu'il faut le rappeler, c'est un pays comme l'Iran a signé quand même des conventions internationales. Il faut qu'on le lui rappelle continuellement que s'il veut faire partie de la communauté internationale en tant que pays respecté, il faut que lui aussi respecte les lois, quand même, les normes internationales.
Merci infiniment, Firouzena Avandi, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes sociologue, professeur honoraire à l'Université libre de Bruxelles ainsi que spécialiste de l'Iran. Je rappelle également vos deux livres publiés, dont un qui en est à sa troisième édition et qui s'intitule Iran. Il est aux éditions Debouc, et un deuxième livre qui s'intitule Être femme en Iran et dont la deuxième édition sortira au mois de mai prochain. Merci beaucoup pour vos réponses.
Merci pour votre invitation.